Héloïse Bouton, tu es présente ce soir à Sciences Po Rennes pour une conférence dont le nom est « Pourquoi je suis féministe et j'aime le rap ». Est-ce que tu as l'habitude d'intervenir dans des établissements pour débattre autour de ce type de sujet ? Et en quoi c'est essentiel pour toi de partager cette parole à qui veut bien l'entendre et surtout aux étudiants ?
Je suis assez habituée d'interventions, notamment dans des facs. J'avoue que j'ai fait beaucoup de Sciences Po, peut-être il y a un lien, je ne sais pas. Donc oui, c'est un exercice moi que j'aime bien, je trouve que c'est super important de parler avec des jeunes en fait. J'aime bien aussi faire ce genre d'événements dans des lycées ou d'interventions même dans des collèges parfois, parce que je pense que souvent ce sont eux aussi qui consomment du rap ou qui écoutent du rap et que du coup il y a un rapport qui est beaucoup plus bienveillant et on discute entre passionnés. Et ce qui est aussi souvent le problème quand on parle de rap et de féminisme, c'est qu'il va y avoir des intermédiaires comme des médias ou des gens qui vont juger cette musique sans la connaître ou en la méprisant. Et là, moi, j'aime bien cet exercice de on parle entre personnes qui respectons la culture et qui l'écoutons.
Madame Rap, c'est le premier média français dédié aux femmes dans le hip-hop. De quelle volonté est né le site et comment expliquer qu'il soit le seul ?
Ce site est né de la volonté de visibiliser les femmes dans le hip-hop parce que, comme tu l'as dit, il n'y avait pas d'autres médias, il y avait une place à prendre en fait. Et aussi de montrer que, contrairement à ce qui est renvoyé sans arrêt comme idée, que être féministe et aimer le rap serait antagoniste, c'est faux, on peut tout à fait assumer les deux. Et que, en tant que féministe, de toute façon, aujourd'hui dans la société, on est tout le temps confronté à plein de contradictions. Donc pourquoi tout d'un coup le rap et le féminisme seraient la plus grosse contradiction et la plus problématique, alors qu'on peut être féministe et écouter Noir Désir, par exemple, ou être féministe et regarder des films de Roman Polanski. En tout cas, j'en connais, sans citer de nom, mais voilà. Donc je veux dire, en tout cas, voilà, on a toutes nos contradictions. Et aussi, moi, c'est une culture et une musique que j'écoute depuis très très longtemps. J'ai fait à l'époque... ça remonte un petit peu maintenant, mais à un mémoire de master sur la place des femmes dans le rap aux États-Unis, donc c'était un peu mon sujet de prédilection. Je pense que c'est le seul parce que en France, on n'est pas très tourné sur tout ce qui est quotas, visibilisation de ce qu'on appelle à tort des communautés, alors qu'en fait, pour moi, c'est une étape nécessaire pour que l'égalité existe. C'est comme la non-mixité, en fait. La non-mixité, c'est un moment qui est pour moi nécessaire, qu'on se retrouve entre non-blancs, entre femmes, entre non-hétérosexuels, pour après pouvoir accéder à un espace mixte où là, les choses se passent mieux. Et pour moi, c'est ça, Madame Rap. J'espère qu'à terme, il n'y aura plus de raison d'être et cessera d'exister.
Et justement, donc, tu as devancé un peu ma question. Pourquoi, selon toi, est-ce que rap et féminisme, c'est devenu presque deux mots antinomiques lorsque le rap est finalement l'un des genres musicaux qui permet le mieux d'expliquer son point de vue ?
Comme tu le dis, c'est pour moi le genre musical qui permet de mieux exprimer son point de vue, mais c'est perçu par les médias traditionnels ou, comme je le disais tout à l'heure, par des gens qui méconnaissent cette culture et cette musique comme l'antre du sexisme et la musique la plus misogyne pour les femmes, pour deux raisons, parce que le rap souvent use d'un langage très cru, dit salope, pute, voilà, n'a pas peur d'être injurieux, là où dans d'autres styles musicaux, dans d'autres endroits de la société, le sexisme est plus pernicieux, plus invisible, dans le rap il est très visible. Et moi du coup, au contraire, je le trouve pour le coup moins dangereux, parce qu'on le voit. Parce qu'on voit les clips ultra objectivement pour les femmes, parce qu'on voit ce langage est compréhensible de tous et toutes, donc on arrive très vite à l'identifier. Alors que quand Michel Delpech chante les groupies, on a l'impression que c'est un peu sympa, quoi. Et on le voit pas forcément de cet angle-là. Et la deuxième raison, c'est que souvent, en tout cas historiquement, le rap en France, et d'ailleurs aux États-Unis aussi, vient de milieux défavorisés, vient d'artistes racisés ou de milieux populaires. Et je pense que du coup, il subit un double effet discriminant de classisme et de racisme, où on va pointer du doigt le rap et ses acteurs en disant « Regardez, c'est eux qui sont responsables de la misogynie, en fait. » Et comme ça, pendant ce temps-là, ça permet aussi aux dominants de se dédouaner de cette responsabilité-là en disant « Nous, on est irréprochables, la cause, c'est eux. » Comme on peut le faire avec le tatouage, le milieu du tatouage, ou avec les jeux vidéo qui sont responsables de la violence dans la société. Voilà, on va pointer du doigt un microcosme, et comme ça, ça dédouane les dominants de s'interroger sur ces questions-là de violences faites aux femmes.
Donc le rap, le meilleur moyen de s'exprimer sûrement, et que aussi le meilleur miroir de notre société, ça fait du rap le genre musical le plus moderne et le plus évolutif.
Moi je suis persuadée, enfin pour moi le rap est la musique la plus réactive à notre société, qui bouge très très vite. On le voit par exemple avec le rap queer. On voit quand Kanye West passe à la télé américaine et dit « Les mecs, mes potes rappeurs, il faut arrêter d'être homophobes en fait, vous pouvez pas continuer. » Moi, ça me rappelle les discriminations qu'ont subi les Noirs dans les années 60, etc. Mais c'est génial, parce que du coup, voilà, c'est une icône populaire, c'est une méga star internationale qui passe sur toutes les télés mondiales pour donner ce message-là. En France, ça commence aussi à bouger, mais en tout cas, j'ai l'impression que le rap s'adapte super vite. Par exemple, on voit qu'aujourd'hui, il y a des rappeuses féministes qui ont qui n'ont pas peur de le dire. On voit aussi qu'il y a des hommes qui parlent du phénomène MeToo et des violences faites aux femmes. On le voit dans aucun autre style musical. Donc je pense qu'au-delà de cette réactivité, il y a aussi une très grande diversité. Il y a plein de rap, il n'y a pas un rap, il y a des rap pour moi. Et il y a voilà, des femmes de toutes origines, de toutes morphologies, de tous âges, ce qu'on ne va pas retrouver forcément, je trouve, dans la pop et dans le rock, même si j'aime aussi beaucoup ces styles musicaux.
Mais alors, très moderne, mais on a un sujet qui est loin de l'être, par contre, c'est ces rappeurs qui décident justement de s'exposer dans des clips hyper et des propos aussi hyper sexistes. Pourtant, c'est vu et revu.
C'est ça. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, faire des clips sexistes ou des paroles sexistes, au-delà d'être sexiste, c'est... J'ai envie de dire, on est en 2018, quoi. Encore, vous faites encore ça, mais comment vous pouvez... Pour moi, c'est aussi un manque de créativité, c'est une espèce de flemme artistique où on se dit, franchement, voilà, et c'est pareil pour tous les styles musicaux, hein, mais je trouve que c'est toujours décevant de se dire, on tente encore le coup pour voir si le filon marche toujours et peut toujours ramener de l'argent ou de la visibilité. Après, je pense aussi que c'est principalement la responsabilité des labels qui cherchent à formater les rappeurs comme ça, qui... Dans leur tête, pour être rappeur, il faut être hyper viril, hyper macho, street credibility, avoir plein de filles à poil partout, du champagne et des grosses bagnoles. Et c'est leur image erronée aussi, ces clichés qu'ils ont sur le rap, qui vont faire que les rappeurs vont entretenir aussi ce truc-là. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on sort jamais de ce système en fait.
Dans une interview, tu parles pas mal d'imagerie, des codes qui gravitent autour du rap. Est-ce que selon toi, encore aujourd'hui, ils sont pas assez maîtrisés et du coup ça donne lieu à un gros amalgame?
Je sais pas s'ils sont pas assez maîtrisés, mais ils sont... Trop, c'est des ressucées permanentes en fait. Je trouve qu'ils sont trop, ils oppriment peut-être un peu et contraignent vachement d'artistes. Je pense qu'il y a des artistes qui se disent qu'ils sont obligés de mettre telle ou telle chose dans leur clip ou d'avoir tel ou tel mot ou telle référence à leur quartier ou telle référence à telle chose pour être légitime. Alors qu'on le voit aujourd'hui, voilà, le rap encore une fois est multiple, est pluriel et on peut être complètement hors de ces codes-là et faire du rap et être dans cette forme d'authenticité aussi qui est très importante dans le rap. Je pense que les codes sont aussi, pour moi, sont plus liés aussi à la société capitaliste, marketing en fait, où aujourd'hui tout le monde s'habille en streetwear, même les bourgeois du 16e qui méprisent le rap en fait. Donc il y a ces codes-là aussi, je pense, enfin, il y a une perversion de ces codes-là et de leur sens aussi originel dans le hip-hop qui était from rags to riches comme on dit en anglais, genre on part de rien et on y arrive en fait. Donc il y avait un sens aussi de mettre en avant le côté ostentatoire de regarde mes grosses chaînes en or et tout, ça voulait dire aussi je viens de la merde et j'ai réussi. Alors qu'aujourd'hui ça a un sens complètement différent et c'est juste du capitalisme effréné quoi.
Et certaines rappeuses militent pour leur place dans ce milieu, ou ne serait-ce qu'en tant que femme. Est-ce qu'il y a une solidarité de la part des rappeurs cette fois-ci à ce sujet? Je pense notamment à l'image du gangsta un peu cliché dont certains tentent de se détacher maintenant.
Je ne sais pas s'il y a une solidarité entre ces rappeurs et ces femmes. Il faudrait leur demander à elles et à eux. Moi, ce que je peux voir, c'est que je constate qu'il y a des hommes qui avaient cette image-là très viriliste et très gangsta, qui s'en éloignent petit à petit, doucement avec le temps. Je me souviens d'une interview de Caris dans Les Inrocks où il disait que le patriarcat devait être aboli, quoi. Mais j'étais là, j'hallucine, c'est Caris qui a dit ça. Enfin, il se drogue certainement. Que se passe-t-il? Et en fait, non, c'était hyper intéressant parce que quelque part, il se remettait en question. Il disait, ouais, j'ai fait chouin comme titre, donc qui veut dire pute. Mais il expliquait qu'en fait, contrairement à la manière dont ça avait été perçu, lui disait que même les chouins, il les respectait, que lui préférait les chouins à d'autres filles, que justement, avoir plein de partenaires sexuels, ça voulait pas dire être une traînée, ça voulait pas dire ne pas être respectable en tant que femme. Et que pour lui, le patriarcat, en tant qu'homme racisé, l'opprimer tout autant que les femmes. Donc c'était hyper intéressant comme discours. Et je pense qu'il y a plein d'hommes dans le rap, déjà qui ne sont pas sexistes, qui ne font pas du rap sexiste, et pour ceux qui en ont fait ou qui continuent à en faire, qui sont un peu, pas tous, mais certains, en train de bouger, je trouve.
Je crois que par rapport à ces propos hyper sexistes, justement, toi tu penses à prendre beaucoup de recul et que ça te choque moins finalement que des actes quotidiens galvaudés sous forme de galanterie.
Et alors moi la galanterie... Enfin, je comprends pas trop ce que c'est, quoi. Pour moi, c'est l'incarnation du sexisme pernicieux. Et nous, en plus, en tant que femmes, on a intégré ce truc-là de si on nous respecte, si on est vraiment égaux, eh ben, on nous tient la porte, on nous paye l'addition, on nous offre des fleurs, on nous dit qu'on est jolie. Et toutes ces tribunes qu'on a pu voir sur la liberté d'importuner, entre guillemets, qui va dire que tout d'un coup, être draguée dans la rue, c'est sympa, et qui confond tout, en fait. Et pour moi, la galanterie, c'est un peu ça, parce que c'est le danger de la galanterie, ou de plein d'autres choses, mais je rebondis sur cet exemple-là, c'est que c'est, encore une fois, c'est hyper sournois. Alors que quelqu'un qui me dit salope en face, ça veut pas dire que c'est pas violent, et je ne suis pas en train de nier cette violence-là, c'est violent, c'est sexiste, c'est une insulte, mais en tout cas, j'ai toute la globalité du message directement. Alors que voilà, dans la galanterie, ou encore une fois, dans certaines œuvres de la musique populaire, de la culture populaire, c'est pas si prégnant que ça, on le voit pas. Il faut vraiment déconstruire plein de choses pour comprendre que c'est sexiste, alors que dans le rap, bah, au moins, on le voit tout de suite. Donc on peut se positionner très vite, je trouve.
Je reviens un peu sur ces rappeuses que tu rencontres dans le cadre de Madame Rap. Elles sont pas nécessairement engagées, ou en tout cas, elles ne cherchent pas forcément à en parler. Je pense notamment à des rappeuses comme Chilla, engagée, qui l'est pour le coup, mais qui veut pas forcément avoir cette étiquette.
Bah, je crois que ce qui est problématique, en France, certainement plus que dans d'autres pays, notamment des pays anglophones ou nordiques, européens, c'est qu'on adore les étiquettes, quoi. On adore mettre les gens dans des cases, parce que comme ça, on peut bien les contrôler. Et dès qu'ils débordent un peu, dès qu'ils sont un peu slasheurs ou qu'ils sont polyvalents, c'est l'angoisse. Et dès qu'on va noter un trait de caractère, on va les réduire à ça. Donc je pense que Chilla, c'est sa crainte, c'est que oui, elle est féministe, mais elle n'est pas qu'une rappeuse féministe, elle n'est pas que féministe. Elle a sorti 3 titres féministes sur 10, et on lui dit « vous êtes une rappeuse féministe ». Donc c'est aussi, ça veut dire qu'on n'a pas écouté le reste, ça veut dire que combien de temps ça va lui coller au basque, et ça veut dire aussi qu'il y a une certaine pression pour l'avenir, je trouve, alors que c'est une artiste émergente qui est en train de se construire, ça veut dire qu'on l'attend là. Et du coup, moi, j'ai peur que ça conditionne sa création, et c'est assez dommage. Et comme, voilà, moi, je trouve qu'un exemple qui est assez édifiant aussi, c'est Eddy de Préto, qui dit partout, enfin, je l'ai entendu dire à la radio, dans des émissions télé, voire dans la presse écrite, je ne suis pas un rappeur, je refuse ce terme, je m'inspire du rap, mais je suis un chanteur de variété, blablabla. Et tout le monde dit le rappeur homosexuel, le rappeur queer, le rappeur machin. C'est un vrai problème. Alors que l'artiste lui-même dit non. Donc, je comprends aussi que... elle n'ait pas envie d'être réduite au féminisme, mais comme à plein d'autres choses, parce que c'est hyper encombrant, en fait, d'être dans une case.
Aujourd'hui, il y a un sacré panel de rappeuses hyper talentueuses qui existent, quand même, tu le démontres à travers Madame Rap. Mais alors, comment on explique qu'on soit si peu au courant? Donc, la photo média, peut-être, et pourquoi?
Un, la photo label, aux grosses majors, en tout cas, pas les labels indépendants, puisque eux font le travail, je trouve. Et deux, la photo média, grand public aussi. La photo label, parce qu'ils cherchent depuis 20 ans la nouvelle Diams. Donc, en gros, hein, je caricature, mais c'est ça. Ou maintenant la nouvelle Cardi B, la nouvelle Nicki Minaj, etc. Donc ils cherchent à formater les artistes qu'ils rencontrent et ils sont incapables d'appréhender toutes leurs facettes et leur complexité, en fait. Et deuxièmement, les médias, puisque très souvent dans les médias grand public, les femmes qui rappent sont présentées comme des femmes qui rappent, c'est-à-dire des femmes qui font du rap, et pas des artistes ou des rappeuses. Et très souvent aujourd'hui, quand on voit même encore par exemple un papier sur Chilla, ou sur Ciana, ou sur ce genre de rappeuses qui émergent, va y avoir au moins un ou deux paragraphes sur le fait que ce soit des femmes. Et je dis, on fait pas ça sur les hommes. On va pas faire un papier sur Niska en disant, pendant 2 paragraphes, c'est un homme qui rappe. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? Et voilà, si on le décale sur l'autre genre, on voit bien qu'il y a un problème. Ça veut pas dire qu'il faut pas en parler. Mais je dis juste que du coup, on s'intéresse pas à leur musique, à leur art. On s'intéresse à leur genre encore. Ça devient un peu exotique. Oh là là, une rappeuse qui rappe, c'est incroyable. Donc c'est ça qui est mis en avant. Et leur musique, bah, ça passe vraiment au second plan, voire on s'y intéresse pas du tout. Ce qui est exacerbé par les médias aujourd'hui qui sont sur des concepts, sur du hashtag, sur on lit l'article en 15 secondes et on zappe et on passe à autre chose. Donc ça n'aide pas non plus le contexte, je pense.
On assiste depuis un petit moment à une libération de la parole auprès des femmes assez conséquente. Toi, tu interviens aujourd'hui à Sciences Po pour une conférence. Quel message t'as envie de délivrer aux étudiantes et étudiants? Qu'est-ce qu'il est essentiel de retenir aujourd'hui?
Pour moi, ce qui est essentiel de retenir aujourd'hui dans le rap, c'est que le rap est la musique la plus diverse, la plus plurielle et la plus inclusive qui existe, contrairement aux préjugés qu'on peut avoir. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où il n'y a pas de tabou dans le rap. Tu peux dire tout ce que tu veux, tout ce que tu penses, et c'est le seul endroit pour moi où on va trouver des textes et des prises de position, en tout cas artistiques, qui sont d'une liberté incroyable. Pour moi, c'est la liberté en fait absolue. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est la liberté.
Mélissa Métis se dit sa vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Mélissa me tue. Le matin derrière ses canis alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa y a tout plein d'inconnus. Descendez ça c'est défendu, oh c'est indécent. Elle crie mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue, en sous mon gros plan. Tout un tas d'individus. Noir et blanc.
soir de pluie, v'là qu'on gratte à ma porte. Je m'empresse d'ouvrir, sans doute un nouveau chat. Nom de Dieu, le beau félin que l'orage m'apporte. C'était toi, c'était toi, c'était toi. Ah, putain de toi. Ah, pauvre de moi. Le comble enfin, misérable salope. Comme il ne restait plus rien dans le garde-manger, t'as couru sans vergogne et pour une escalope te jeter dans le lit du boucher. Ah, putain de toi. Ah, pauvre de moi.
J'ai envie de violer.
Toi, Una, quand tu ne m'appartiens pas.